Radio Germaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission de Germaine Sport. La période de galop étant terminée, c'est un studio plutôt rempli qui est à mes côtés aujourd'hui. Salut Zélie.
Salut Julie et salut à tous.
Salut aussi à Thérésia.
Salut à tous.
Et Lilia.
Bonjour à tous.
Alors, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est une actualité plutôt chargée que nous allons débriefer aujourd'hui avec du rugby, du foot, du vélo, de l'athlétisme, de la Formule 1 ou encore du patinage. Et on commence tout de suite avec la Formule 1, puisque pour une fois, Lilia, le vainqueur n'était pas celui qu'on attendait.
Effectivement, Julie, puisque ce week-end à Melbourne, Ferrari a signé son premier doublé depuis 2022 en profitant de l'abandon de Verstappen sur problème mécanique. C'est donc Carlos Sainz qui est monté sur la première marche du podium après une course finement menée, suivi par son coéquipier Charles Leclerc. Carlos Sainz, qui se remet tout juste d'une appendicite, s'empare d'une belle victoire qui pourra lui servir dans sa recherche d'une nouvelle écurie pour l'année prochaine, puisqu'il ne conduira plus pour Ferrari à compter de 2025.
Oui, Lilia, donc c'est un très bon résultat pour Carlos Sainz après son podium à Bahreïn lors de la course d'ouverture. Donc il est actuellement quatrième au championnat à 11 points derrière Verstappen et tous les deux ont une course en moins. Petite déception peut-être, Leclerc, on sait que ça fait quelques courses, les trois premières courses, qu'il est un peu sous le rythme de Carlos Sainz, je sais pas ce que t'en penses.
C'est vrai qu'il y a une petite déception, parce que quand ce genre d'opportunité se présente, on s'attendrait à ce qu'il soit là, et là en l'occurrence c'était pas le cas non plus à Singapour, ce qui permet à Carlos de profiter de ce genre d'opportunité, alors qu'on attendrait normalement Leclerc au niveau de Sainz, voire devant.
On pourrait peut-être penser qu'il pense déjà à 2025 avec son partenaire Lewis Hamilton. C'est que des suppositions, mais c'est vrai qu'il semble un peu derrière Carlos Sainz, peut-être parce que Carlos Sainz a plus à prouver pour sa future écurie.
Exactement. Et puis après, la saison ne fait que commencer. On en est à la troisième course. Carlos n'en a fait que deux, donc on attend de voir sur le long terme, mais... C'est vrai qu'avec tous les enjeux concernant la saison prochaine, on a hâte de voir ça. Alors, chez Red Bull, week-end plus compliqué, donc suite à l'abandon très rapide de Max et à la cinquième place de Perez, plutôt décevante. Donc, un coéquipier de Max un petit peu en difficulté, même s'il il fait le job, mais on sent que ce début de saison est un petit peu plus compliqué que le début de l'année dernière.
Verstappen qui a abandonné au tour 4. Donc c'est un problème de frein pour Max Verstappen et ça met fin à une série de 9 victoires. Et comme tu l'as dit, Perez qui est un peu en dessous. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive. On sait qu'il n'arrive pas à suivre le rythme qui est mis par Max Verstappen, mais surtout aussi par les autres rivaux ici, Ferrari et McLaren aussi.
Exactement. Et concernant McLaren, en revanche, l'équipe montre du potentiel ce week-end avec un bon rythme qui permet à Lando Norris de monter sur le podium, suivi par son coéquipier Oscar Piastri. Il faudra suivre l'écurie dans les prochains Grands Prix pour voir si cette dynamique ascendante se confirme. A l'inverse, pour Mercedes, le week-end aura été catastrophique avec le DNF de Lewis Hamilton en raison d'un problème mécanique et le crash de George Russell dans le dernier tour, qui a d'ailleurs valu une pénalité très discutée de 20 secondes à Fernando Alonso, lui faisant perdre sa 6e place.
Concernant le crash de George Russell, je ne veux pas mentir aux auditrices, aux auditeurs. Je n'ai pas regardé la course, mais j'ai regardé les débriefs, bien sûr. Et il y a une question qui s'est posée sur la FIA et la manière dont ils ont géré le crash de George Russell. Le fait qu'ils ont mis une voiture, de sécurité, une virtual safety car, au lieu d'un drapeau rouge ou même d'une safety car. Bon, ça pose problème encore de cette question de sécurité en F1. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la radio de George Russell qui était...
effrayante.
Voilà, il était vraiment paniqué à l'idée de d'être percuté par une autre voiture. Et bien sûr, ça nous rappelle des scènes effroyables. On sait qu'il y a eu des morts en F1 et bien sûr, c'est pas le genre d'image qu'on aimerait voir à l'avenir, enfin jamais de la vie. Et donc, on espère que la FIA vont essayer de prendre des mesures pour éviter ce genre de choses.
Exactement. Et en plus de la FIA, ça pose une question concernant ce virage sur la piste. Qui manque de dégagement, il y a très peu de visuel et quand on a des voitures qui arrivent à une telle vitesse, le virage peut être un petit peu dangereux, donc peut-être que ça invitera la FIA à repenser la construction du circuit. Concernant donc le Grand Prix de Melbourne, on note aussi que Yuki Tsunoda et les deux As finissent dans les points, ce qui pourrait s'avérer crucial pour le classement constructeur en fin d'année, le bas de tableau étant extrêmement serré.
Oui, c'est les premiers points de Yuki Tsunoda cette saison et je suis vraiment contente parce que voilà, j'ai toujours supporté Yuki Tsunoda quand il était à AlphaTauri aux côtés de Pierre Gasly et je sais qu'il y a une image un peu négative de Yuki Tsunoda, on l'appelle un peu l'enfant immature, celui qui dit des gros mots à la radio et qui ne respecte pas les grands, mais souvent on omet son talent et voilà, moi je sais que Yuki Tsunoda il a du talent et je pourrais même aller plus loin et dire qu'il a peut-être sa chance d'aller peut-être chez Red Bull et essayer un peu comme Gasly et Albon de tenter sa chance aux côtés de Max Verstappen. Et on sait qu'aux côtés de Tsunoda, il y a Daniel Ricciardo qui est un peu dans la tourmente. On sait qu'il y a eu des drames autour de Daniel Ricciardo et ses remarques un peu sexistes, mais c'est pas là l'enjeu de ma pensée. Moi, je voulais parler plus sportivement et on sait qu'il est un peu en difficulté. On voit que lors de ses trois dernières courses, il était derrière Tsunoda et on pose cette question. Est-ce qu'il est vraiment prêt encore pour retenter sa chance à Red Bull? On sait que il y a Liam Lawson qui toque à la porte de visa pour lui aussi tenter sa chance pour courir dans l'écurie. Donc je pense que Ricardo il a du souci à se faire parce que j'ai vu une news qu'il lui restait peut-être 2-3 courses pour montrer son potentiel et être à la hauteur un peu de Yuki Tsunoda. Donc j'ai un peu peur que Daniel Ricciardo ne finisse pas la saison et c'est peut-être la fin pour lui en F1.
Oui, c'est clair que ça fait un petit peu peur parce que là le début de saison est presque anonyme en fait. On le voit quasiment pas pendant les courses, il n'y a pas grand chose à remarquer, à noter. Donc, selon certaines rumeurs, il y a un ultimatum qui lui aurait déjà été posé. Et Liam Lawson pourrait prendre son baquet très très rapidement. Donc là, c'est un petit peu inquiétant et ce sera à suivre pour les prochaines courses. Du coup, voilà pour le débrief F1 et on se donne rendez-vous au Japon du 5 au 7 avril où il faudra suivre avec pas mal d'attention les écuries qui apportent des améliorations.
Merci beaucoup les filles pour cette page bien remplie sur la F1. Maintenant, retour sur le cyclisme avec d'abord les derniers résultats, mais aussi on va le voir, une grosse chute qui risque de perturber un petit peu le calendrier de certains coureurs. Mais d'abord, Zélie, un petit point sur les dernières courses.
Oui, donc on s'était quitté après un début de saison déjà bien animé avec Milan San Remo. Et pendant que nous étions en train de gratter nos galops d'histoire et autres partiels de sciences et sociétés, 200 coureurs étaient en train de faire 300 km de vélo entre Milan et San Remo. Et à la fin, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé, gagne donc son premier monument devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. Pogacar qui a essayé de sortir dans le podio, comme ce qu'il avait déjà fait, je crois, les années précédentes, mais sans succès. Donc voilà, une belle victoire pour Philipsen. Pogacar a pu se rattraper au Tour de Catalogne, puisqu'il remporte le général il a gagné, je ne sais plus combien d'étapes, mais 2 ou 3 étapes. Enfin, il a vraiment dominé la course de bout en bout. Donc, Tadej Pogacar qui s'impose devant Mikel Landa et Egan Bernal. Bernal, ça fait plaisir de le revoir arriver à un bon niveau, qui confirme après ses bonnes performances sur Paris-Nice. Après, on le rappelle, voilà, un accident très grave qui l'avait un peu éloigné de la route, ou du moins qui l'avait fait perdre son meilleur niveau. Donc, c'est vraiment très bien de le revoir comme ça. Dans la suite des classiques de printemps, pour Bruges-la-Panne, c'est Philipsen qui s'est imposé, encore lui, après Milan San Remo, voilà, encore un très beau début de saison pour lui. Et Elisa Balsamo chez les femmes, du côté de l'E3 Saxo Classique, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. Du côté de Gent-Wevelgem, c'est Mats Pedersen qui s'impose chez les hommes, et Lorena Vibes qui s'impose chez les femmes. Mais la nouvelle de la semaine, c'est bien évidemment à travers la Flandre. Et là, je suis obligée de me tourner vers toi, Julie, parce que je sais que c'est quelque chose qui te touche particulièrement, puisque c'est la grosse chute de Wout van Aert.
Oui, bon, c'est comme on disait avant d'enregistrer l'émission, je pense que je suis maudite et que dès que je soutiens un coureur, il s'arrête d'avoir de la chance et de gagner des courses, malheureusement. Donc je vais peut-être me remettre en question en termes de karma. Non, plus sérieusement, bon, à travers la Flandre a été remporté par Matteo Jorgensen qui avait attaqué d'un petit groupe de 6 coureurs quelques kilomètres avant l'arrivée. La Visma Lease the Bike l'a aussi emporté chez les femmes puisque c'est Marianne Vos qui a remporté la course. Mais l'équipe a été beaucoup, beaucoup plus malchanceuse en milieu de course, puisque, comme tu le disais, Wout van Aert a été victime d'une très sévère chute aux côtés d'autres leaders. Alors, pour le bilan, il souffre d'une fracture de la clavicule, de plusieurs côtes et également une fracture du sternum. Donc là, on part sur facilement plusieurs semaines de convalescence. Enfin, là, c'est opération et tout ce qui s'en suit pour lui. Donc, il va louper ses gros objectifs, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race. Il avait adapté sa saison de cyclocross et adapté tout son programme pour ces objectifs-là. Il avait dit qu'il voulait vraiment se centrer là-dessus après beaucoup de malchance, le Covid en 2022. L'année dernière, sur Paris-Roubaix, la crevaison au pire moment qui l'empêche de disputer ses chances, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, très triste pour lui, surtout que les images de la chute sont, enfin, que ce soit pour lui ou pour les autres coureurs, très, elles font assez froid dans le dos. Enfin, c'est vraiment pas sympa à voir. Pour faire un petit point aussi sur les autres noms notables qui ont été touchés, chez la Lidl Trek, Jasper Stuyven, Mats Pedersen sont allés au sol également. Donc pas de fracture du côté de Mats Pedersen, mais quand même de nombreuses blessures, donc ça risque d'impacter un petit peu ses performances à venir. La même chose pour Binyam Girmay. Chez les Français, on a aussi Anthony Turgis qui souffre, assez de chance, pas de fracture, mais des plaies plutôt superficielles. Je sais pas ce que t'en penses, Zélie, parce que moi je suis très peu objective sur Wout van Aert, étant donné que je l'apprécie beaucoup en tant que coureur et même du côté humain, mais c'est...
Alors déjà, moi je suis totalement neutre dans le débat Van Der Poel-Van Aert, puisqu'à la base je suis pour Julien Lafilippe, donc je ne suis plus dans la conversation. Non mais en fait, c'est qu'on aime ou pas Wout van Aert, c'est hyper triste parce qu'il a construit toute sa saison pour ses objectifs de printemps, et le voir hors course pour une chute... je dirais pas bête, mais il y avait aucune raison de chuter à cet endroit-là. Enfin, en fait, il y a vraiment personne à blâmer si ce n'est le mauvais sort, et je pense que c'est ça le plus frustrant. Et forcément, pour les grandes échéances, on attendait forcément ce duel Van Der Poel-Van Aert sur le Ronde, sur Paris-Roubaix également, avec évidemment d'autres noms qui auraient pu se mêler à la lutte. Mais en fait, je dirais pas que ces courses viennent de perdre de leur intérêt, mais c'est sûr qu'on perd un énorme candidat à la victoire finale de ces courses. Et même pour lui, en termes d'empathie, c'est vrai que ces images étaient vraiment terribles. Plus évidemment le Tour d'Italie qui pourrait être aussi en danger. Alors si en effet il peut pas faire le Tour d'Italie, moi ce que j'espère c'est de le voir sur le Tour de France et le voir faire un très beau Tour de France. En tout cas j'espère pour lui. Mais c'est vrai que les saisons se suivent et se ressemblent un peu pour Wout van Aert qui malheureusement, soit par des erreurs de course, soit par des erreurs de malchance, passe souvent à côté de ses grands objectifs.
Et puis le problème c'est que, on le sait malheureusement non, mais en tout cas les saisons sont réglées vraiment pour des coureurs de cette envergure au millimètre, toutes les échéances sont prévues pour monter petit à petit en niveau, et clairement là le but c'était les classiques de printemps, le Tour d'Italie, les JO aussi qui rentrent en ligne de mire, donc là ça veut dire qu'il va falloir repenser tout son programme, et même pour la Visma Lease Bike c'est... clairement, ça va être une galère quoi de repenser les compos et tout. Ils ont des gros noms pour le remplacer, je dis pas, mais je veux dire, je pense qu'il y avait quand même tout un programme qui était établi. Et c'est jamais marrant de perdre un nom comme ça sur une chute.
Ouais, c'est vrai que pour Visma Lease Bike, ils ont déjà perdu Laporte qui est malade. Ils ont perdu Van Baarle également. Donc là, perdre un leader, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Bon, après, je suis pas non plus hyper inquiète pour la Visma Lease Bike. Je pense qu'ils sauront se relever. La victoire de Jorgensen le prouve sur un terrain qui... pas forcément favorable au premier abord à Jorgensen. Donc voilà, mais c'est sûr que voir Van Aert comme ça, c'est quand même triste, je pense, pour le cyclisme en général.
Concernant les échéances à venir, on en a parlé, ce sera donc le Tour des Flandres très prochainement, ainsi que Paris-Roubaix. Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire qu'on voit très bien un Néerlandais au maillot arc-en-ciel s'imposer et lever les bras sur ces échéances sans grande surprise. On verra ça évidemment parce qu'on est à l'abri de rien, le hasard l'a prouvé récemment, mais on mise sur Van Der Poel.
Je pense qu'on peut miser sans trop de risques sur Van Der Poel, on sait pas la cote la plus risquée du week-end. Après, on n'est jamais à l'abri de surprises, mais voilà, il va arriver avec l'étiquette de grand favori, ce qui n'est pas forcément une mauvaise étiquette pour lui, il a déjà réussi à surmonter sa pression là, mais ouais, c'est une occasion quand même... Alors, en or, je suis sûre qu'il préférerait pouvoir affronter Van Aert. Mais voilà, là, on a quand même un peu la porte ouverte pour gagner ces deux courses.
Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des JO, on l'a évoqué un petit peu avec Wout Van Aert, mais Lilia, alors que l'échéance se rapproche, tu as un petit mot à me dire à ce sujet concernant l'athlétisme?
Oui Julie, à quelques mois des JO, on va faire le point sur deux athlètes français et sur les qualifications en athlétisme. Alors d'abord, quelques nouvelles de Margot Chevrier, la perchiste championne de France en 2023, qui s'est grièvement blessée lors des mondiaux en salle de Glasgow il y a quelques semaines. Alors malgré sa fracture ouverte à la cheville, l'athlète rêve toujours des JO 2024, surtout qu'elle avait déjà largement rempli les conditions pour pouvoir y participer. Même si on doute beaucoup de sa présence cet été, la Française ne perd pas espoir et a déclaré que si ça marche, tant mieux. Sinon, il n'y aura rien à regretter, j'aurai fait ce qu'il y a à faire. Et elle a aussi affirmé déjà se projeter sur les prochaines échéances mondiales et européennes. Autre Français en difficulté concernant une blessure, Kevin Mayer, l'un des plus gros espoirs de médaille pour la France aux Jeux Olympiques. L'athlète a ce week-end renoncé à terminer un décathlon à San Diego en raison d'un inconfort à la jambe droite. Le temps commence à presser pour le sportif qui a jusqu'au 30 juin pour réaliser les minima olympiques, surtout qu'il n'a plus terminé un décathlon depuis son titre mondial en juillet 2022. Donc ça commence à remonter un petit peu. Malgré cet abandon, Kevin Mayer, qui a remporté la médaille d'argent aux deux dernières éditions des JO, a affirmé se sentir totalement confiant vis-à-vis des qualifications et ne pas douter de sa présence à Paris cet été.
Bon, visiblement, Wout Van Aert n'est pas le seul malchanceux, hein. C'est aussi le cas de Kevin Mayer. Mais Zélie, tu as un épisode d'espoir, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais clairement une remontée exceptionnelle à nous raconter. Je te laisse le micro là, je sens que...
Oui, comme vous le savez, c'est l'heure du moment patinage de cette émission. Il faut toujours qu'il arrive un moment ou un autre. Mais c'est peut-être un des derniers de cette saison puisque c'était les mondiaux. Et donc, après les mondiaux, eh bien, il n'y a plus grand-chose. Sauf si voilà, il y a des nouvelles de blessures, choses comme ça, évidemment qu'on ne souhaite pas. Donc voilà, on va faire un retour quand même sur les résultats des mondiaux. En commençant par la catégorie femmes, où Kaori Sakamoto s'est imposée pour la troisième fois d'affilée. Donc elle était déjà championne du monde en 2022 et en 2023 et c'est la première fois que ça arrive depuis peut-être 1969, j'ai pas la date en tête, mais en tout cas ça faisait très longtemps que quelqu'un n'avait pas conservé son titre trois fois dans cette catégorie, donc très bel exploit. Elle devance la jeune Isabeau Levito des États-Unis et Cheyenne Kim de la Corée du Sud. Donc voilà, Sakamoto qui continue sa domination sur cette catégorie, toujours en l'absence des Russes. À noter la belle 17e place de Lauryn Shield, qui est donc son objectif était d'abord se qualifier pour le libre. Et en fait, ce n'était pas arrivé depuis 2019 qu'on avait une Française dans le libre. Donc voilà, c'est vraiment une belle performance, c'était ses premiers mondiaux je crois. Donc une belle progression pour elle, qui rentre dans le top 20 mondial, donc bravo à elle. Du côté des couples, Deanna Stelato-Dudek et Maxime Deschamps, les domiciles de l'étape si je puis me permettre, puisque nous étions, c'est vrai, je ne l'ai même pas précisé, mais nous étions au Canada, à Montréal pour ces mondiaux. Et donc les Canadiens se sont imposés, et là c'est vraiment une des grandes, des belles histoires de ce week-end, puisque Deanna Stelato-Dudek est sur le circuit depuis maintenant plus de 20 ans. Donc à 41 ans, elle devient championne du monde. Pour situer, elle était la médaillée d'argent des championnats du monde junior 2000 en individuel. Donc c'est exceptionnel, une longévité pareille. Donc voilà, vraiment un titre, en plus deux programmes qui est absolument magnifique, totalement mérité, à domicile, devant leur public. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Ils devancent les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara. Donc voilà, encore médaillés mondiaux qui sont vraiment montés et qui surtout confirment la montée en puissance du Japon dans les catégories autres que les catégories individuelles. Cette montée en puissance qui leur a permis justement se placer sur le podium de la dernière épreuve par équipe aux Jeux Olympiques, même si ils n'ont toujours pas eu leur médaille pour les raisons qu'on connaît avec l'affaire Valieva. Et c'est Minerva Fabienne Haas et Nikita Volodine pour leur première saison ensemble, les Allemands complètent le podium. En danse, victoire de Madison Chock et Evan Bates, les Américains qui conservent leur titre mondial. Ils sont devant Piper Gilles et Paul Poirier, les Canadiens à domicile, qui auraient aimé pouvoir aller chercher Chock et Bates, mais c'était un peu juste. Piper Gilles, qui revient d'un cancer, donc encore une fois une très belle histoire, et qui revient au meilleur niveau pour prendre cette deuxième place. Ils étaient très contents de cette deuxième place dans Lucky Sunny Prix, ça s'est vu. Donc voilà, vraiment beaucoup de belles histoires sur ces mondiaux. Et Charlène Guignard et Marco Fabri, les Italiens, complètent le podium. Du côté des Français, de belles performances également, puisque Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot terminent 8e et Loïcia de Mougeot et Théo Lemercier 11e. Donc voilà, deux couples dans le top 11, comme on a l'habitude d'en parler au cyclisme. Non, c'est vraiment très positif et voilà, de belles performances. Mais, toutes ces catégories et toutes ces belles histoires n'ont pas égalé la formidable dramaturgie de la catégorie homme, où il faut d'abord, avant tout, souligner l'exceptionnelle performance d'Ilia Malinin, qui remporte son premier championnat du monde, après deux programmes quasiment propres, je crois, et un petit quadruple Axel dans le programme libre, parce que pourquoi pas. Vraiment magnifique. Yuma Kagiyama est le deuxième, comme il avait déjà été, enfin il a déjà été plusieurs fois médaillé au championnat du monde, donc voilà, il continue à être sur le podium avec deux programmes solides. Mais évidemment, il faut parler de cette médaille de bronze. Cette médaille de bronze, elle a été obtenue par nul autre que Adam Siaoimfa. Alors, sur le papier, avant la compétition, il était clairement attendu. Double champion d'Europe en titre, un des meilleurs scores au cumulé de la saison. Donc voilà, il était attendu sur le podium. Mais là où c'était beaucoup moins attendu, c'est ce programme court absolument catastrophique qui l'a placé à la 19e place. Vraiment, il n'a pas fait de combinaison, il a raté, bah, en fait, il a raté tous ses sauts, c'est facile. Donc voilà, 19e place, donc, en plus, il aurait pu même ne pas être qualifié pour le livre, puisque c'est seulement les 24 premiers, donc on était vraiment pas loin. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'espérait pas grand-chose d'une 19e place. Et donc, au libre, il a patiné dans le premier groupe, donc voilà, dans les patineurs les moins bien classés. Il a fait un programme libre, enfin, sensationnel. Il n'y a juste pas d'autre mot que sensationnel. Il a réussi tous ses sauts, il a sorti 4 quadruples, je crois. Il s'est même permis un petit backflip, alors que c'est toujours interdit. Hein, il l'avait déjà fait au championnat d'Europe, mais la différence, c'est que au championnat d'Europe, il avait 30 points d'avance. Ici, bon, bah, il n'avait plus rien à perdre. Donc, il fait un backflip qui lui enlève 2 points. Et donc, il lui empêche d'obtenir un meilleur score personnel, mais qui lui fait quand même obtenir plus de 200 points. Et qui le place avec un score qui voilà, l'aurait fait gagner les championnats d'Europe, ou être au moins sur le podium des championnats d'Europe et des 4 continents avant. Donc voilà, un score merveilleux. Mais il fallait maintenant attendre. Il a attendu longtemps, 2 heures dans la green room, pour attendre que tous les patineurs passent. Et finalement, au fur et à mesure, il resta premier. Et finalement, c'est Shoma Ono qui était pourtant premier après le programme court, et dont le podium lui tendait les bras, qui a craqué, qui a fait trop d'erreurs, et qui a donc fait un score en dessous d'Adam Siaoimfa au cumulé des deux épreuves. Donc Kagiyama et Malinin se sont maintenus sur le podium, mais ont pu grappiller du coup une place. Et bien du coup, Adam termine deuxième du libre, donc il bat même Kagiyama sur le libre, mais troisième au général. Donc en fait, c'est facile, 19e à deuxième, ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire c'est la plus grosse remontée dans l'histoire du patinage. En plus avec un élément interdit qui lui a fait perdre 2 points, enfin, ça reste vraiment presque insolent de autant remonter en faisant un truc interdit, enfin, c'est vraiment incroyable. C'est la première médaille pour un patineur français dans cette catégorie depuis 2010, et Brian Joubert. Donc voilà, Adam ne cesse de gagner des médailles et de faire ce genre de chemin. Ça montre une telle capacité de remobilisation en 2 jours entre le programme court et le programme libre. C'est vraiment plein de bon augure pour les prochaines compétitions. Et évidemment, on pense à 2026, on pense au JO de Milan. Et on se dit qu'il pourrait faire de très belles choses. Et pour terminer, quand même, mentionner la belle place de Luca Economides, 21e, dont l'objectif est de se qualifier pour le libre. Objectif rempli, c'était ses premiers mondiaux. Lui aussi a fait une très belle progression chez les hommes, surtout avec les problèmes de santé de Kevin Emoz. Donc voilà, globalement, une superbe compétition qui conclut la saison de la meilleure des manières.
Thérésia, du coup, un petit point maintenant sur l'équipe de France de football.
Oui, donc au moment de l'enregistrement de cette émission, la semaine dernière à Lyon, les Bleus ont pris part à la trêve internationale et ont donc lancé leur préparation pour l'Euro 2024 en Allemagne cet été. Bien que leur style vestimentaire, on le sait, ait été remarquable et suscité un grand buzz dans les médias, sur le terrain, leurs performances ont été plutôt décevantes. En effet, nos Bleus ont concédé leur première défaite depuis 6 mois, donc 2-0 contre l'Allemagne avec des buts de Florian Wirtz dès la 7ème seconde. Fun fact, je n'ai pas vu le but parce que le temps d'allumer ma télé, il y avait déjà but. Et de Kaya Havertz en seconde mi-temps. Donc les Bleus ont été vraiment méconnaissables avec un gros manque d'impact et d'automatisme en défense. Ensuite, il y a aussi une victoire étriquée et difficile 3-2 contre le Chili à Marseille au Vélodrome, contre une équipe qui est classée 42e au classement FIFA. Là aussi, les Français ont du mal avec un manque de rythme et d'automatisme. Bien sûr, il y a aussi le cas Kylian Mbappé. En conférence de presse d'avant-match, il répondait à un journaliste concernant sa forme actuelle et les perturbations liées au transfert du Real Madrid en disant.
Ouais, et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ?
Ce dernier a été fortement critiqué après ses performances et son attitude lors de ces deux matchs, donc face à l'Allemagne et au Chili, dû à de nombreux déchets, un manque d'efficacité et de justesse. Il y a cette idée en fait que Kylian Mbappé choisirait ses matchs et on sait qu'il préférerait se ménager pour les prochaines échéances avec le PSG. Bon, en tant que supportrice parisienne, cela ne déplaît pas, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette vision que Mbappé, quand c'est un peu des matchs amicaux, il n'a pas vraiment envie de se donner à fond. Ces deux défaites, dont l'Allemagne, qui est une équipe concurrente pour la victoire à l'Euro, soulèvent bien sûr des interrogations sur notre parcours à l'Euro. Cet été, il y a cette question, est-ce que cette équipe est vraiment prête ? Et j'ai beaucoup entendu ça dans les médias et dans les débriefs d'après-match. Et personnellement, je ne suis pas très inquiète parce que ce sont tout d'abord des matchs amicaux. Et on se rappelle, en 2022, avant la Coupe du Monde, la France a perdu de nombreux matchs. Et ensuite, ils sont allés en finale de Coupe du Monde. Et Mbappé a été incroyable lors de cette compétition. De plus, il ne faut pas oublier en fait, l'absence d'Antoine Griezmann, qui a un énorme impact sur le jeu de l'équipe. Et je pense que quand Griezmann reviendra en été, il y aura forcément plus d'automatisme et on verra un bon jeu de l'équipe de France. Enfin, la prochaine échéance clé, c'est le 16 mai 2024, date à laquelle Didier Deschamps annoncera la liste des 24 joueurs français qui participeront à l'aventure de l'Euro 2024. Donc ce groupe aura la lourde tâche de se qualifier pour les 8e de finale en affrontant d'abord l'Autriche, ensuite les Pays-Bas et la Pologne, qui est d'ailleurs s'est qualifiée cette semaine en remportant une séance lors des tirs au but.
On va terminer cette émission avec un dernier petit point d'actualité. Cette fois-ci, on va parler rugby, puisque le tournoi des Six Nations a pris fin récemment, avec pour vainqueur final l'Irlande, sans grande surprise vu les performances tout au long du tournoi, mais toutefois sans grand chelem, puisqu'ils ont connu une défaite dans ce tournoi. Concernant le 15 de France, le dernier match était donc contre l'Angleterre. C'était le retour tant attendu du crunch après la victoire écrasante de l'année dernière, puisque le 15 de France l'avait remporté 53-10 contre nos éternels ennemis, les Anglais. Donc cette fois-ci, c'est pas une victoire aussi large qu'on a pu voir, mais le 15 de France l'a cependant emporté 33-31 contre les Anglais, donc de quoi rassurer un petit peu sur le niveau de forme de cette équipe qui était en convalescence de la défaite en Coupe du Monde, d'un début de tournoi aussi compliqué, donc ça a montré quand même que l'équipe avait été capable de se remobiliser. Bon, on en avait parlé lors de la dernière émission, mais effectivement, les changements dans la composition de l'équipe avaient tardé un petit peu à se faire, mais bon, ça montre que ça marche et qu'on peut un peu faire tourner l'effectif et qu'on peut se passer de certains noms et qu'on arrive à s'en sortir. Donc au final, la France qui termine deuxième du tournoi, suivie de l'Angleterre, de l'Écosse, puis de l'Italie et du Pays de Galles qui s'est montré plutôt en difficulté sur ce tournoi. Mais ce n'est pas la fin totalement des Six Nations, puisque ce sont désormais les femmes qui prennent le relais. Les Françaises qui ont remporté leur premier match contre l'Irlande, donc un début de tournoi un peu plus satisfaisant de leur côté. Et on attend évidemment leur affrontement contre l'Écosse, dès les prochains jours, et on vous tiendra évidemment au courant des résultats. Mais les joueurs du 15 de France masculin ne nous abandonnent pas totalement, puisqu'ils ont repris le chemin de leur club respectif en top 14, et ce sera donc le dernier petit point d'actualité pour conclure cette émission. Pour revenir sur les résultats principaux, l'UBB a remporté son clash qu'on attendait contre le Stade Toulousain. La Rochelle, également un des grands noms qui est actuellement 6e du classement, a perdu son match contre l'Aviron Bayonnais. Concernant donc le classement, il est actuellement mené par le Stade Français, suivi du Stade Toulousain et de l'UBB. On a toujours Oyonnax qui reste en dernière position et qui a été récemment battu par son malheureusement fidèle compagnon de fin de tableau, Perpignan. C'est donc sur ces mots qu'on va conclure cette émission. Merci les filles d'avoir été avec moi au studio. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très prochainement sur les ondes de Radio Germaine.
À bientôt. À plus.